nous n'avons pas tout à fait fini avec le peuple juif. Parce que le Christ étant l'incarnation, je dirais, d'un certain visage de Dieu, beaucoup plus mystérieux que tout ce qu'on peut soupçonner à travers la raison naturelle, même religieuse, même la sensibilité religieuse normale, si j'ose dire, le peuple juif est tout de même une lente montée. L'histoire d'Israël est une montée progressive vers le pressentiment de ce visage de Dieu qui va s'incarner avec Jésus-Christ. C'est la montée d'un désir, l'histoire d'Israël. Ce désir qui va, en se rétrécissant quant au nombre de ceux qui lui restent fidèles, le petit reste d'Israël, mais qui va, en se creusant, en s'intensifiant, en devenant de plus en plus dévorant, et qui parvient à un paroxysme dans la personne de celle qui ramasse en elle toute l'histoire d'Israël, c'est-à-dire la Sainte Vierge. Elle est comme un Finistère, un creuset, un entonnoir, si vous voulez, n'est-ce pas, dans lequel tout se concentre petit à petit, toute la longue attente des pères d'Israël arrive à une espèce de pas d'exaspération, parce que la Sainte Vierge est calme et dans un océan de paix, mais de paroxysme insoutenable, tel que Dieu ne pourra plus lui résister et qu'il enverra son Fils en réponse au désir de Marie qui résume en elle tous les désirs d'Israël. Alors ça, il faut tout de même que nous regardions un peu ce désir du visage de Dieu, ce que j'ai appelé un jour le visage de Dieu qui ne ressemble à rien, le visage inconnu de Dieu, ce désir dans le cœur d'Israël. Alors il faut revenir un peu sur cette histoire. Au fond, il y a trois parties dans l'histoire du peuple d'Israël, très sommairement. Il y a ce que j'appellerais la préhistoire, celle où le peuple d'Israël n'était encore qu'un clan, le clan d'Abraham, une famille en somme. Et c'est l'histoire de cette famille, la préhistoire d'Israël. Et c'est la partie qui, pour mon cœur, je l'avoue, mis à part peut-être la traversée du désert, c'est celle qui est la plus éloquente. Abraham, Isaac, Jacob, les 12 enfants de Jacob, Joseph. Et alors à ce moment-là, se réalise la promesse faite à Abraham, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et le sable de la mer. Le peuple d'Israël se met à pulluler en Égypte, mais dans des conditions qui n'étaient pas celles que Abraham aurait pu rêver, mais peut-être celles qu'il a pu soupçonner au cours d'un rêve mystérieux et douloureux qu'il fit peu après les premières promesses de Dieu, et où il y eut des larmes et du sang et une angoisse qui a oppressé le cœur d'Abraham et qu'il n'a pas bien comprise. C'était le pressentiment des souffrances de son peuple en Égypte au temps où il est devenu un peuple. Et la deuxième partie de cette histoire, alors c'est celle où le prophétisme qui caractérise toute la famille d'Abraham, sur laquelle nous allons revenir un peu, alors le prophétisme est tout entier et la seule guide de ce peuple. Moïse d'abord, le plus grand des prophètes, arrache ce peuple à la servitude égyptienne, lui fait traverser la mer Rouge, ce qui est magnifique, lui fait traverser le désert, ce qui est moins drôle, et le mène aux portes de la terre promise, puis d'autres prophètes succèdent à Moïse. C'est une période plus confuse qu'on appelle celle des juges, mettons des prophètes ayant le pouvoir, au fond les juges, c'est un peu ça. Ce sont des prophètes qui se relaient pour diriger les armées, diriger la conquête de la terre promise et commencer à organiser le peuple d'Israël. Et ça va jusqu'à Samuel, ce moment douloureux entre tous dont je vous ai déjà parlé, et où Israël refuse de continuer à être dirigé par des prophètes et où il veut être dirigé par des rois comme tout le monde. Et à partir de ce moment-là, le prophétisme continue en Israël, mais alors ça devient presque immanquablement un prophétisme persécuté. Et il y a vraiment les deux pouvoirs, temporel et spirituel à partir de Saül, soit le premier roi d'Israël, le pouvoir temporel, et puis les prophètes qui continuent à prophétiser et à la fois entretenir la flamme du désir des purs d'Israël et puis menacer les rois et tous les idolâtres de ce qui va leur arriver et de ce qui ne manque pas de leur arriver. Bon, eh bien, reprenons un peu, nous n'allons pas du tout, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces trois parties d'histoire d'Israël, mais enfin, ce qui m'intéresse, c'est le pressentiment progressif de ce visage de Dieu qui va s'incarner au cours de ces trois étapes. Et alors là, tout de suite, je m'arrête sur Abraham. Ce que je trouve d'extraordinaire dans Abraham, c'est que tout ce qui vient, non seulement toute l'histoire du peuple juif, mais l'histoire de Jésus-Christ et l'histoire de l'Église est présentée sous forme d'ouverture musicale dans Abraham. Et pourquoi ? Eh bien, parce que Abraham, je le définirais, celui qui a compris le cœur de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a cru. Et c'est pour ça que cette foi a été tellement précieuse au cœur de Dieu, qu'elle a touché le cœur de Dieu. C'est dans la vertu de cette loi qu'on ne croit vraiment que les gens en qui on a confiance. Et on a confiance vraiment que dans les gens qu'on comprend. Si vous ne comprenez pas quelqu'un, vous allez vous méfier. Normal. Si vous le comprenez, vous lui faites facilement confiance. Or, quels sont les gens qu'on comprend ? Eh bien, on comprend les gens à qui on ressemble. Voilà pourquoi c'est tellement précieux la foi aux yeux de Dieu, la foi vive, la foi spontanée, la foi irrésistible, c'est parce que on ne peut croire vraiment dans l'amour de Dieu pour nous que dans la mesure où on ressemble à l'amour de Dieu. On ne peut comprendre la miséricorde de Dieu que dans la mesure où on est soi-même un peu devenu miséricordieux. Et tant qu'on n'est pas miséricordieux, on ne comprend pas. Et tant qu'on ne comprend pas, on ne croit pas. Et alors on ne peut pas offrir à Dieu cette foi plus précieuse que l'or, cette foi, je dirais, facile, qui permet d'espérer contre toute espérance. Voilà, voyez-vous, pourquoi est-ce que Abraham n'a pas pu désespérer au moment où Dieu lui a demandé son fils ? Eh bien, il aurait pu dire, comme Thérèse de l'enfant Jésus, je sens que Dieu n'est pas comme ça. Il a l'air cruel, il a l'air impitoyable, mais moi, non, je ne peux pas y croire. Et c'est pour ça que je voudrais faire presque un petit discours qui s'appellerait Abraham et Thérèse de l'enfant Jésus. Vous voyez, il y a des affinités extraordinaires entre eux. Et je suis sûr que quand Thérèse, précisément, on avait un peu assez des manuels de perfection qui lui cassaient la tête et qu'elle ouvre la Bible, je comprends très bien qu'avec Abraham, elle devait être tout à fait à l'aise. Et c'est pour ça qu'il est difficile de parler d'Abraham parce qu'il a tellement anticipé sur tout ce qui viendrait par la suite. C'est vraiment le sein d'Abraham. Vous voyez, nous sommes tous issus du sein d'Abraham, y compris Jésus-Christ d'ailleurs, qui le dépasse, bien sûr. Mais si vous mettez de côté, pour la bonne bouche, dont nous reparlerons Jésus-Christ et la Sainte Vierge, hein, pour trouver quelqu'un d'aussi génial qu'Abraham, il faut aller chercher du côté de Thérèse d'enfant Jésus. La confiance folle, la confiance aveugle, la confiance qui ne refuse. Et alors, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer le dialogue extraordinaire entre Dieu et Abraham à propos de Sodome et Gomorrhe. Parce que là, on trouve pour la première fois quelque chose qu'on retrouvera aussi avec Moïse, et que il y a un visage de Dieu qui se présente à nous officiellement, qui est le plus apparent, qui est vrai d'ailleurs, c'est pas un visage faux, mais enfin c'est le plus apparent, c'est le plus facile à repérer, et c'est le visage de la justice et de la colère de Dieu. Il en a assez de Sodome et Gomorrhe, et il dit, ça peut pas durer. Ça peut pas durer, je vais les exterminer. Et c'est tellement vrai, ce visage-là, que de fait, il va les exterminer. Il les extermine bel et bien, dans la Bible. Bon. Donc ce visage est vrai. Mais c'est pas le plus profond. Il y en a un autre. Et alors, c'est là où justement, Abraham comprend tellement le cœur de Dieu, que Dieu demande à Abraham, dans ce dialogue, de figurer, lui, l'autre visage de Dieu, celui qui a pitié. Et Dieu n'apparaît pas comme ayant pitié, sauf si ce n'est sous la pression d'Abraham, comme si Abraham était plus miséricordieux que Dieu, alors que, évidemment, c'est le Saint-Esprit qui est là au fond du cœur d'Abraham et qui lui fait sentir qu'il peut y aller, il faut y aller, hein. Dieu n'attend que ça. C'est déjà un peu le combat de Jacob. Je ne peux pas m'empêcher d'évoquer ce dialogue parce que je trouve ça extraordinaire, parce que Abraham commence par se passer sur le plan de la justice, apparemment. Il lui dit, d'abord, il lui dit, Dieu se dit, je peux pas exterminer Sodome sans, faut que je lui en parle. Faut que je lui en cause avant. Parce que je peux pas lui faire ça. Vous voyez, il me comprend, lui. C'est toujours pareil. Il me comprend, lui. J'ai tout de même quelqu'un qui parlait. Oh, non, dans cette création, que je me repens d'avoir créé les hommes, mais tout de même, il y en a un. Alors, je peux pas, c'est tout de même très grave ce que je vais faire là, faut que je fasse attention. Hein. Je vais lui en parler. Je vais lui dire. Il faut que je le mette dans la confidence. Alors, il prend Abraham à part et lui dit, eh ben, tu Sodome et Gomorre, t'es au courant. Il dit, oui, évidemment. Eh bien, il faut en finir. Hein, allez, on va en finir avec. Et alors, Abraham, premier temps, parce qu'il est pauvre créature, lui, vous savez, il n'a pas du tout conscience d'être au niveau de Dieu. Alors, il dit, écoute, Seigneur, attention, s'il y a 50 justes là-dedans, ce serait pas juste, vous voyez, au nom de la justice, ce serait pas juste, attention, de liquider les 50 avec le reste, ça peut pas aller, ça, hein, c'est pas digne de toi, hein, non. Alors, faut tout de même regarder à deux fois. Il y a peut-être 50 justes là-dedans. Alors Dieu dit, bon, ben d'accord, s'il y a 50 justes, j'y touche pas. Oh, merci, alors là, Seigneur, je vous reconnais bien là, enfin, j'en attendais pas moins de vous. Alors, bon, 50-50, enfin, 50-50, bon, peut-être qu'il n'y aura pas. Hey, on ne va pas être à 5 justes, point, 45, ça, 45, d'accord, dit Dieu, ça. Ah, oh, bon, merci Seigneur, très bien, 45, excusez-moi, hein, si j'insiste, mais peut-être qu'il y en aura 40, hein. Dieu lui dit, bon, 40, soit. Dieu lui dit, d'accord, s'il y en a 40, je leur pardonne. Et s'il y en a 30? Eh bien, s'il y en a 30, la même chose. Je leur pardonne. Ah, oh, alors Abraham, on lui dit, bon, ben écoutez, là, vous êtes, là, ils peuvent pas se plaindre. Ils peuvent pas se plaindre. Ça vraiment, alors là, si vous leur pardonnez à 30, ils peuvent pas se plaindre. Mais, à mon avis, il y en aura que 20. Il n'y en aura pas 30, vous savez. Si vous voulez mon avis, il n'y en aura pas 30. Il n'y en aura que 20. Il n'y en aura que 20, hein. Alors s'il y en a 20, il y en a 20. Eh bien, s'il y en a 20, je leur pardonne. Écoutez, Seigneur, alors là, vous m'obligez à insister. Alors, s'il y en a 10, s'il y en a 10, ce sera la même chose. Et là, il n'ose pas aller plus loin. Parce que vraiment, il sent qu'il ne peut pas aller plus loin. Non, il n'y en a pas eu 10. Ça, c'est, je vous dis, là, Thérèse de l'Enfant Jésus et Abraham rejoint, précède Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas céder à la tentation que beaucoup de modernes ont, comme je pense à quelqu'un comme Camus en France, de penser que l'homme peut être meilleur que Dieu. Et bien, ce dialogue pourrait donner cette tentation. Enfin, Abraham est celui qui a pitié des hommes, et puis Dieu, lui, c'est le juge juste. Mais non, c'est le Saint-Esprit qui inspire ça à Abraham. Voilà, et bien, passons sur Abraham à regret, hein, j'aimerais tellement m'attarder autour de lui, et restons quand même dans cette période des patriarches, arrivons à Jacob, celui qui est devenu Israël, qui a donné son nom à Israël. Au cours du combat de Jacob, je crois que c'est la première fois qu'on voit cette expression dans la Bible, où Jacob dit, j'ai vu Dieu et je ne suis pas mort. Et cette intuition qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir, il me semble que c'est la première fois que ça se présente. Ça, c'est très important parce que c'est là que je vois aussi pour la première fois le pressentiment de quelque chose d'autre. que les promesses temporelles que Dieu a faites à Abraham, apparemment il lui a fait que des promesses temporelles. Il lui a dit, tu seras fécond et tu auras la terre promise. La terre promise, ben, c'est Canaan. Bon. Seulement, en fait, dès Abraham, et ce sera toujours vrai jusqu'à l'entrée dans la terre promise, au moins jusque-là, eh bien, le cœur d'Israël, le cœur du peuple, est soulevé au-delà de la terre promise de Canaan, celle qui va vers le pressentiment et le désir d'autre chose. Voilà. Qui sera en fait la vraie terre promise, qui est la chose la plus difficile à dire, parce que c'est le ciel. Et parler de Jésus-Christ, parler du ciel, parler de la miséricorde, ça va être un peu la même chose. Parler du visage de Dieu qui ne ressemble à rien, ça va être un peu la même chose. Et alors, déjà, je suis obligé de prévenir, justement, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Il faut que ça soit donné, il faut avoir faim, il faut avoir soif. Et ça, je ne peux pas remplacer le Saint-Esprit dans votre cœur pour comprendre ces choses-là et pour vibrer à l'unisson avec l'Église envers Jésus-Christ. Et nous verrons cette fascination, cette puissance de séduction extraordinaire qu'a exercé le Christ sur les apôtres et sur d'autres, sur la Samaritaine, sur tant d'autres, mais il faut que vous sachiez dès maintenant que ce qui attire dans Jésus-Christ, c'est à la fois le fait que c'est un homme bien tangible, mais le fait que c'est le ciel. C'est-à-dire ce que les Juifs ont appris, qu'on ne pouvait pas voir ça sans mourir. Ils ont appris à avoir peur du ciel. Et à en avoir peur et en même temps à sentir, j'anticipe sur le temps de Moïse, à sentir la présence du ciel auprès d'eux. C'est ça la gloire de Dieu qui est là, sous forme d'une colonne de nuée pendant le jour et d'une colonne de feu pendant la nuit. Alors ça les attire et en même temps ils ont peur. Ça, c'est au-delà des promesses temporelles, au-delà des succès guerriers que Dieu promet à Israël, au-delà même de l'alliance nuptiale dont je vous ai parlé, cette amitié de fiançailles dont nous avons parlé hier soir. Eh bien, Israël sent bien que ça, c'est encore plus grave et plus mystérieux, plus attirant, cette chose-là dont Moïse dira à propos du buisson ardent, justement, qu'est-ce que c'est que cette chose que je vois là? Je vais en faire le tour et je vais voir ce que c'est, ce buisson qui brûle sans se consumer, mais enfin il faut que j'aille voir, mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Vous voyez, c'est au-delà de la terre promise, et c'est cependant déjà le pressentiment que c'est la vraie terre promise, et Dieu lui dit, n'approche pas, ou déchausse-toi, n'approche pas avec tes gros sabots. De cette chose-là qui est trop précieuse pour toi. Le songe de Jacob, c'est déjà ça. Il voit les cieux ouverts et il voit que il y a une communication ininterrompue. Ça monte et ça descend, comme un escalator dans les grands magasins. Vous savez. Hein, c'est des escaliers roulants qui montent et qui descendent. Et bien, il y a une espèce d'escalier roulant. Entre, il voit ça en songe, des anges qui montent et qui descendent, et ça se termine tout là-haut, dans ce lieu que on peut pas voir sans mourir, et puis ça descend jusqu'à la terre, et ça touche la terre. Et alors quand Jacob se réveille, il a peur du caillou sur lequel il a reposé la tête. Et je croyais que c'était banal, je croyais que c'était quelque chose d'humain, de ce monde, et puis non, c'est redoutable, c'est la maison de Dieu. Voilà que là, dans ces hauts lieux d'Israël, une fois pour toutes, Israël saura qu'il y a des lieux où on est en contact avec le ciel. Et ce sont des lieux redoutables. Et il y aura en permanence la demeure, l'arche d'alliance. Et les Juifs apprendront qu'il ne faut pas s'approcher sans être allé vite. Sinon, on est électrocuté. Il y a de la haute tension. C'est ça. Et c'est sous cette forme-là qu'ils percevront la présence de Dieu, la présence de la gloire. Et à la fois, ils auront peur, et plus ou moins obscurément, ce ne sera pas clair dans leur esprit. Ça se passe dans les intuitions, justement, de leur cœur. Ils sentiront qu'il y a une affinité entre la terre promise et puis ça. Je trouve pas d'autre mot, d'ailleurs, pour l'exprimer que ça. Je viens de vous parler de l'échelle de Jacob, je viens de vous parler du buisson ardent. Alors, il y a dans l'histoire de Moïse, évidemment, un moment privilégié à ce point de vue-là. C'est l'entrevue du Sinaï, toujours 40 jours et 40 nuits, Et puis, il y a des éclairs, il y a du tonnerre, le peuple est en bas, et il a la frousse. Ça, il sent qu'il se passe quelque chose. Moïse entre, lui, vraiment dans le sein des saints. C'est bien au-delà, c'est bien plus que la terre promise. Il entre en contact avec Dieu et il lui parle d'homme à homme, comme il est dit dans la Bible. Les autres prophètes, Dieu leur adresse la parole, mais Moïse, il lui parle face à face, comme un homme parle à un homme. Bon, leurs entretiens ont été plus ou moins sténographiés. Ils sont arrivés, comme on dit, à une large plateforme d'accord qui s'appelle l'Alliance. Le code de l'alliance, la loi et tout ça. Mais il y a ce moment extraordinaire. Voyez, si vous voulez comprendre Jésus-Christ, il faut vous attarder autour de ces moments-là. Où Moïse lui dit, fais-moi voir ta gloire. Il sent bien qu'il n'a pas tout vu. Et à ce moment-là, Moïse, la terre promise, la descendance, la protection d'Israël, sont là, il oublie tout ça, il s'en moque, il est en présence de l'être qui de ce buisson ardent déjà dont il a pressenti cette chose, alors il a envie d'aller au ciel, si vous voulez, il oublie la terre, c'est fini, il a envie d'aller au ciel, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dit, tu peux pas la voir sans mourir, justement. Et l'heure n'est pas venue pour toi de mourir. Mais, comme je veux en effet que tu gardes le désir et le pressentiment de cette gloire, eh bien, je vais te la faire voir de dos. C'est plus prudent pour toi. Tu vas te cacher dans le rocher. Je vais passer devant toi de dos. C'est déjà la Pâque. C'est déjà le passage de Dieu. Et puis, non seulement je vais passer de dos, mais je vais te protéger de mon ombre pendant que je passerai. De manière à ce que tu puisses supporter un reflet de ma lumière. Un petit, petit reflet. Un petit rayon de ma lumière avec toutes les protections possibles. Avec tout ce voile qui deviendra pour nous la Sainte Vierge et qui deviendra pour nous l'obscurité de la foi. Il y a les deux. Nous ne voyons Dieu que de dos et c'est l'obscurité de la foi. Et nous sommes protégés par une main maternelle et c'est la Sainte Vierge qui nous permet de supporter le passage de Dieu dans notre vie. C'est une affaire aussi grosse que celle qui est arrivée à Moïse, largement. Or, ce qui est arrivé à Moïse n'était quand même pas banal, puisque quand il est redescendu, eh bien les Juifs ne pouvaient pas regarder son visage parce qu'il était insoutenable de gloire. Cette gloire pourtant éphémère, comme dit saint Paul. Il dit, c'était déjà pas mal, puisqu'il a fallu qu'il mette un voile pour que les Juifs lui disent, non, nous ne pouvons pas supporter ça. Après ça, il y a donc cette traversée du désert sur laquelle je n'ai pas le temps de m'attarder autant que je voudrais. Il y a l'épisode de Samuel. Je voudrais bien vous parler de Saül, de David et de Salomon. Saül, c'est celui qui se méfie, c'est celui qui est jaloux. C'est vraiment le roi selon le cœur du peuple. Vous vouliez un roi, eh bien vous l'avez. Seulement Dieu, c'est ce qui fait au fond. Je vous ai dit, la fin d'Israël commence avec Samuel, enfin avec le moment où Samuel est remercié par le peuple d'Israël qui décidément ne veut plus de prophète à sa tête et veut un roi. Je dis c'est la fin du peuple d'Israël, mais je dis aussi, et c'est pour ça que je vous en parle ce matin, c'est le commencement de Jésus-Christ. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait que des prophètes, il n'y avait pas encore de roi, mais le vrai roi, Dieu l'avait bien en tête, il avait bien l'intention de donner un roi à Israël. Mais un roi alors qui ne serait plus seulement le roi d'Israël, qui serait le roi du monde, c'est le roi de l'univers, le roi des anges eux-mêmes, le roi des rois, tout à fait. Voilà l'idée de Dieu. Ah, vous voulez un roi? Ben, je vais vous en donner un. Mais selon mon cœur. Mais je vais commencer par vous en donner un selon le vôtre. Ce sera Saül. Et puis je vais le remplacer, parce qu'il aura démérité, par un roi qui sera déjà Jésus-Christ, selon mon cœur, David. Et alors il y aura ce mystère extraordinaire des relations. Je vais avoir beaucoup plus de temps pour vous parler de ça, d'amour et de haine entre Saül et David. Et en même temps, ces trois rois, malgré tout, Saül, David et Salomon, ont ceci de commun que ça commence bien et que ça se termine mal. Pour les trois. Justement, parce qu'il y a une malédiction là-dessus, Israël n'aurait pas dû demander un roi. C'est désolant pour Salomon, qui avait si bien commencé, lui beaucoup mieux que Saül encore. Il avait demandé la sagesse. Et il y en a qu'un, au fond, qui s'en sort à peu près, malgré tout, c'est David, parce que ça se termine mal, mais alors, il s'effondre. Il s'est joué perdant. C'est un art de savoir perdre. Parce que justement, Thérèse l'a bien compris, avec l'amour de Dieu, c'est un peu qui perd gagne. Et quand on accepte de perdre, on peut tout regagner parce qu'on attendrit le cœur de Dieu. Donc, je passe sur tout ça. Et on arrive alors à un des derniers prophètes, enfin, pas un des derniers, il y en a eu d'autres, mais enfin, un des plus grands, et qui est le fondateur, justement, d'un ordre religieux. Le seul ordre religieux qui a pris sa naissance dans l'Ancien Testament et qui continue sous le Nouveau, à savoir le Carmel, justement. C'est Élie. Le prophète Élie, qui s'est retiré, qui vivait au Mont Carmel et qui avait là une espèce d'école de prophètes, n'est-ce pas ? Une école à fabriquer des prophètes, qu'on appelait des fils de prophètes. Et alors, là, Élie, il est animé du zèle de la maison de Dieu, et alors il est en persécution, il est en bagarre constante, il connaît justement ce tourment de voir que le peuple d'Israël, il va à la ruine, que c'est la fin, que c'est fichu. Et alors il se déchaîne, il est dans une... et en particulier, il voit les prêtres de Baal qui triomphent, qui s'installent, et personne ne réagit. Sans parler de Jézabel, qui elle, alors, la reine, qui les soutient à fond, et lui, il est obligé de se cacher, comme David, il est persécuté, il a peur, et en même temps, il est soutenu par la force de Dieu pour les combattre, et alors, un jour, c'est pas Jézabel qui l'embête. Jézabel, bon, c'est une femme de perdition, c'est réglé. Bien, si j'ose dire. Mais c'est le peuple qui, le peuple est tout de même impressionné par Élie. Parce que tout prophète impressionne. Alors le peuple dit à Élie, ben oui, c'est bien quand même, oui, on t'aime bien, tu fais de belles choses. Et du côté de Baal aussi, il y a quand même des choses pas mal. Alors Élie, il en a justement plein de dos de voir ces gens qui ne savent pas choisir. C'est ça le fond de cette exaspération d'Élie. Enfin, ça va durer combien de temps? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés, hein? C'est Dieu ou c'est pas Dieu? C'est Yahvé ou c'est Baal? Si c'est Baal, allez-y et puis fichez-moi la paix. Hein, ne venez pas m'embêter à me demander de faire des miracles ou de ressusciter des morts ou je sais pas quoi, moi, enfin, ou à prophétiser. Laissez-moi tranquille. Et si c'est moi, alors débarrassez-vous et débarrassez-moi de ces gens-là. Alors, le peuple dit, bon, ben, on va pouvoir en finir une bonne fois. Alors, c'est la fameuse histoire où il convoque, je ne sais plus combien, le prêtre de Baal, il y en avait 200, 300, des choses comme ça, et il dit, ben on va bien voir si vous allez mettre la victime sans y mettre le feu, et puis vous allez demander à votre Dieu d'y mettre le feu, hein, voilà. Alors faites ce qu'il faut, et puis on va bien voir, puis convoque tout le peuple d'Israël, et puis on va en finir, hein. Alors, non, c'est 40 prêtres de Baal, excusez-moi, je ne sais, vous savez mieux le chiffre que moi, pas beaucoup mieux, bon, alors ça va, c'est bon. Bon, enfin, un certain nombre. Il y avait une prêtre de Baal, depuis le lever du jour jusqu'à midi, tourne, danse, taillade, enfin, font tout ce qu'il faut, ça n'a pas l'air de bouger. Alors, Élie se moque d'eux, il dit, mais allez-y plus fort, c'est un dieu, il doit dormir. Criez plus fort pour le réveiller un peu. Enfin, allons, faites quelque chose. Enfin, secouez-vous. Et ça vient pas. Et alors, naturellement, comme Élie n'avait pas agi de lui-même, c'est Dieu qui lui avait inspiré ça. Alors, quand c'est fini, il dit, ben, mon Dieu, allez, tu sais que c'est pour toi que j'ai fait ça. Montre-leur que tu es le vrai Dieu. Et alors, arrive ce feu du ciel qui tombe sur la victime et qui, pour moi, a une telle importance parce que c'est tout de même un des premiers signes, après le buisson ardent, de ce qui nous attend tous. Pécheur ou pas pécheur, notre destin, et c'est ça, au fond, un homme consacré, ou une femme consacrée, c'est quelqu'un qui a compris ça, que passez-moi l'expression, nous sommes destinés à la casserole. N'est-ce pas? Et l'encensoir nous montre bien, nous sommes destinés à brûler d'amour, de joie, de gloire. Mais enfin, nous sommes destinés à brûler. Et justement, c'est une de nos grandes tentations, nous chrétiens surtout, parce que à nous chrétiens, il n'est pas permis d'hésiter là-dessus. Ça pouvait être permis pour le peuple juif, ça peut être permis dans les religions naturelles, mais ça n'est plus permis pour les chrétiens, c'est de dire à Dieu, écoutez, vous nous dites, il y a le feu de la gloire, de l'amour, le feu de l'amour miséricordieux qui a percé le cœur de Thérèse de l'enfant Jésus, après avoir percé celui de Thérèse d'Avila et pas mal d'autres saints, il y a ce feu-là, dont le Christ a dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et moi, je ne désire qu'une chose, c'est qu'il s'allume, c'est qu'il prenne. C'est que ce soit un feu de forêt, un feu contagieux, qui s'empare des cœurs les uns après les autres, de proche en proche. Je suis pas venu pour vous donner à manger d'abord. Je suis pas venu pour ressusciter les morts ou pour guérir les malades. Je fais ça pour vous montrer qui je suis. Mais je suis venu pour jeter un feu, qui est le feu de l'amour. Et si vous ne voulez pas de ce feu, alors vous serez de ces branches desséchées qu'on jette à un autre feu. Alors, à quel feu voulez-vous être brûlé? Et alors nous, on répond, ben, si on pouvait ne pas être brûlé du tout, on se contenterait de la vie qu'on a, en vous aimant bien, mon Dieu. Enfin, mais alors, le feu de l'amour, et c'est ça, vous voyez, qui dépasse l'alliance nuptiale entre Israël et Dieu. Parce que, dans une alliance nuptiale, on parle quelquefois de se dévorer d'amour, oui, mais enfin, c'est de la poésie, c'est des métaphores. On se dévore pas vraiment. Tandis que Dieu, lui, l'amour de Dieu, lui, nous dévorera réellement. L'amour de Dieu, lui, est vraiment du feu. Et est vraiment en même temps de l'eau vive. Ce que Thérèse d'Avila appelle de l'eau de goudron. Bon, je pense que c'était que cette chimie de son temps. De l'eau qui brûle et un feu qui rafraîchit. N'est-ce pas? Mais c'est tout de même, c'est une lave qui soulève le cœur et qui le liquéfie, justement. Le curé d'Ars disait, le cœur des saints est liquide. Il est liquéfié. Et en même temps, il faut dire aussi, il est liquidé. Il faut être un peu liquidé pour être liquéfié par ce feu. Alors, Jésus nous dit, ben, c'est un point où à laisser, je n'ai que ça à vous offrir, moi. Le reste, je vous le donnerai par surcroît, en prime, en plus, au centuple. Tout ce que vous me demandez, vous l'aurez au centuple, mais à condition d'accepter le feu. J'attache beaucoup d'importance à ce sacrifice, à cet holocauste d'Élie, où c'est vraiment le feu du ciel qui a consumé la victime, et je dis que tous les holocaustes, tous les sacrifices d'holocauste en Israël, c'était des figures de cet holocauste dont le feu est celui du ciel, et qui est lui-même une figure de ce qui nous arrive, de ce qui doit nous arriver. Et ne vous y trompez pas, à chaque fois que vous communiez, c'est ça qui arrive un peu plus chaque jour. Vous savez, il y a des poison qui consume, qui brûle du dedans. Hein, un feu intérieur, justement. Eh bien, Jérémie le disait, il y a un feu dans mes os. J'ai dit, je ne prêcherai plus. J'en ai assez, lui aussi. Je comprends un peu, oui. Alors, je ne prêcherai plus, j'en ai assez. Mais, un feu était dans mes os, dit Jérémie, qui fait que je ne pouvais pas m'arrêter. Si vous voulez que ce feu s'arrête en vous, je dirais, cessez de communier. Parce que ça, c'est pas la peine d'espérer ne pas être consumé du dedans, à moins de mettre des obstacles, alors dans ce cas, à quoi bon communier, si c'est pour y mettre des obstacles. Mais le royaume des cieux, dit Jésus-Christ, grandit et dévore tout, même quand vous dormez. Du moment que vous y consentez, et c'est ça que signifie la consécration religieuse, vous signez là en bas, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Vous verrez bien, on s'occupe de vous. Mais qu'est-ce que je dois faire? Vous occupez pas. La maison charge de tout. C'est le médicament qui agit, c'est-à-dire l'Eucharistie, c'est-à-dire le corps du Christ. Donc saint Augustin a bien dit, quand tu manges l'Eucharistie, quand tu reçois l'Eucharistie, ne t'imagine pas que c'est toi qui me manges, c'est moi qui te mange. Donc c'est bien ça, moi, le roi d'amour, le roi d'amour, le feu descendu du ciel, je te dévore à petit feu, à chaque fois, que tu manges mon corps, que tu bois mon sang. Donc le feu du ciel dévore la victime d'Élie. Et alors, naturellement, le peuple est tout à fait enthousiasmé, comme un seul homme, il dit Élie au pouvoir, quoi, comme le peuple juif dira Jésus-Christ au pouvoir quand il verra la multiplication des pains. Alors Élie se dit, bon, faut en profiter parce que ça va pas durer. Bien. Alors, puisque vous êtes si bien disposés, exterminez-les tous, les prophètes de Baal, et qu'on en finisse. Et alors, ils sont exterminés, et à ce moment-là, il se passe ce qui se passe souvent dans la vie des prophètes, c'est-à-dire que, après avoir été plus ou moins soutenus par la force de Dieu pour accomplir ce que Dieu demande, eh bien, on retombe comme un soufflet, on se dégroupe, quoi, c'est exactement ça, et on prend peur de ce qu'on a fait. Parce qu'on a fait des choses qui, justement, ne sont pas dans la mesure humaine, et on redevient un homme, un pauvre homme, quand c'est fini. Alors on a peur, alors Élie a peur. Il dit, oui, qu'est-ce que j'ai fait, moi oh là là, et la reine, elle va me couler. Alors il s'enfuit. Voilà, l'homme qui vient d'agir ainsi, avec cette force extraordinaire, quand il voit qu'il a réussi parfaitement son coup, il a peur, il se dit, Jézabel va me courir après, et il se taille. Pardonnez-moi l'expression, n'est-ce pas? Il va se cacher. Et il revient un pauvre homme. Il devient tellement un pauvre homme qu'il a ce cri que j'avoue, je comprends très très bien. Après avoir marché un peu, il n'en peut plus. Et il dit, après tout, je suis pas mieux que les autres. Laisse-moi mourir. Laisse-moi m'endormir avec mes pères. Cette lutte m'épuise, tu me fais mener une vie qui... C'est pas possible, cette histoire-là. C'est pas humain, je suis pas de taille. N'est-ce pas, le découragement, c'est très très important. Moïse a connu ça, tout, Élie a connu ça, tous les prophètes ont connu ça. Et c'est essentiel dans la vie d'un prophète, en tout cas le découragement. C'est une phase indispensable. Si vous connaissez pas le découragement, vous ne faites rien. Ou ça veut dire vous ne faites rien. C'est une loi, ça. Alors, Élie est complètement découragé, et il dit, bon, ben, laisse-moi finir, allez, je me fais. Et il s'endort, et à ce moment-là, eh bien, justement, la figure de l'Eucharistie apparaît, l'ange lui donne à manger et à boire, c'est la figure de l'Eucharistie, et il lui dit, non, c'est pas fini, t'as encore un long chemin à faire, reprends des forces, et puis va au mont Horeb, qui, je crois, est le Sinaï, le même que Moïse. Et alors là, de nouveau, le passage de Dieu, mais alors selon justement un mode qui va me permettre d'approcher enfin de Jésus. C'est que là on apprend que le tonnerre du Sinaï, le feu qui a dévoré la victime d'Élie, tout ça c'est pas encore ce qu'il y a de plus mystérieux et de plus redoutable en Dieu, ce dont les Juifs pressentaient que c'était la face inconnue de Dieu, le visage inconnu de Dieu que nul ne peut voir sans mourir. Eh bien, Élie se cache dans la montagne et il sait que Dieu va passer. Et alors, ça commence par un vent violent. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Vous savez, bon, ça s'invente pas un texte pareil. Ça veut dire que justement, quand il y a des événements spectaculaires, comme tous ceux que Élie avait produits, et même que Moïse avait produits, ça venait de Dieu, si on veut. Mais Dieu n'était pas au plus intime, c'est pas le vrai visage de Dieu, c'est pas le plus profond visage de Dieu, tout ça. Alors, c'est le vent violent, c'est le tremblement de terre, c'est le feu dévorant, et je vous ai parlé d'un feu dévorant, mais en parlant d'un feu dévorant, je parle de Dieu encore d'une manière très grossière. Comme le Christ lui-même, parce qu'il peut pas faire autrement, il a que des mots humains. Alors justement, pour aider à pressentir qu'au-delà des mots humains, il y a quelque chose qui n'a pas de nom dans aucune langue, et qui est beaucoup plus redoutable que le feu, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui est plus redoutable que le feu, que le vent, que le tremblement de terre, et la Bible ne trouve rien d'autre pour le qualifier que un murmure doux et léger. Un je ne sais quoi qu'on a beaucoup de mal à entendre, hier soir on nous parlait du silence, ben c'est justement ça. Au fond, au-delà de tout, il y a quelque chose de plus redoutable que tout le bruit que font les hommes et que font les démons. Le silence. La brise insaisissable, la musique, mais la musique qu'on a du mal à entendre. C'est à ce moment-là que c'est plus beau en général la musique, c'est quand on a du mal à l'entendre. Alors cette musique-là, alors dès qu'elle lit, alors, le texte est saisissant parce que Dieu n'était pas dans le vent, Dieu n'était pas dans le feu, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, et après ça vint un murmure doux et léger, une brise insaisissable, et dès que Élie l'entendit, il se voile dans son manteau. Et alors là, il tremble de peur et de joie à la fois. Parce que là, il sait que c'est Dieu. Eh bien, voilà à quoi nous en sommes arrivés, si vous voulez, en méditant sur ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël, le pressentiment qu'il y a un visage de Dieu qui ne ressemble à rien, et qui est à la fois infiniment désirable, et qu'on ne peut pas voir sans mourir, et qui a, j'y reviendrai, qui a surtout la consonance de Dieu, ça a deux défauts, elle a deux défauts, la consonance de Dieu. C'est que, ou bien, elle casse tout, alors ça c'est le feu du ciel, c'est l'extermination du prophète de Baal, c'est le tonnerre, c'est les éclairs, c'est le tremblement de terre, casse tout sur son passage, alors on a peur, ou bien, elle dit rien. Alors on s'en aperçoit même pas, on la remarque même pas. C'est la manne dont je vous parlais hier. Eh bien, dans les deux cas, c'est la transcendance de Dieu. Et le visage le plus vrai, c'est celui qui ne dit rien. C'est celui qu'on ne soupçonne pas, si ce n'est dans le silence. Et alors, ce visage-là, bien, c'est décourageant dans les deux cas. Parce que si on a affaire au visage qui fait du bruit, ben, on a envie de sauver, c'est bien normal, on a peur humainement. Et si on a affaire au visage qui ressemble à rien, qui est ténu, qui est insaisissable, qui est imperceptible, eh bien on va le rater tous les jours. On va le rater infailliblement, on va passer à côté. On va tout le temps passer à côté. Comment voulez-vous pas passer à côté de Dieu, si c'est ça, s'il est tellement transcendant qu'on le voit même pas? Comment voulez-vous faire? Eh bien, c'est ce visage, infiniment redoutable, infiniment désirable, infiniment imperceptible, c'est celui-là qui va s'incarner et se rendre visible et charnellement touchable et charnellement mangeable et charnellement buvable dans la personne, dans le visage, dans le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire du Verbe qui va s'incarner. C'est ce visage-là. Il faut bien comprendre que le Christ, ce n'est pas l'incarnation de Dieu comme ça. C'est l'incarnation de Dieu, mais dans son visage, le plus mystérieux, le plus redoutable, le plus insaisissable, et le plus affolant, je dirais, de joie, de gloire, d'amour, de délices, et de détresse pour ceux qui ne le trouvent pas. Vous voyez, quand on est embarqué dans cette faim, dans cette soif de ce visage de Dieu, on se dit, mais je vais mourir si je le vois, puis je vais mourir si je le vois pas. Alors, qu'est-ce que nous allons devenir? Je vous ai souvent dit, le plus malheureux des hommes sont ceux qui sont possédés par cette maladie de Dieu. Eh bien, Jésus-Christ est la réponse, il dit, ben, tu vois, je suis un homme, je suis ton frère, j'ai une adresse, elle est en Galilée, elle est partout où il y a l'Eucharistie, elle est partout où il y a des prêtres, elle est partout où il y a des chrétiens, j'ai une adresse, viens me voir. Je t'accueillerai humainement, fraternellement, simplement, ça sera très, très, très à ta portée, et en même temps, sans que tu t'en aperçoives, eh bien, tu seras emporté dans ce cœur de Dieu qui ressemble à rien et qui t'aime tellement.